La séquence littéraire de Monique.
Monique, bonjour. Vous revoilà encore en début du mois. Et cette fois, vous êtes particulièrement à l'heure puisque le premier dimanche du mois, c'est le 1er mars. Et vous allez nous parler de ce mois de mars avec beaucoup de gentillesse, d'humour et de culture.
Oui, bonjour. Merci, Pierre. C'est avec plaisir que, effectivement, je vais vous parler du mois de mars. Pour commencer, je précise que ce mois tire son nom de Mars, le dieu de la guerre de la Rome antique, fils de Jupiter et de Junon, le couple alpha de la mythologie latine. Mars était représenté comme un guerrier avec une armure et un casque surmonté d'une crête. Je ne sais pas pourquoi, mais ce mois-ci, je me sens guerrière également. Non, je ne vais pas lancer de bombes sur mes malheureux congénères. Ma guerre est tout autre et surtout n'est pas meurtrière. Je veux simplement continuer de positionner la femme vis-à-vis de l'homme, encore que je ne sois pas féministe active. D'autres l'ont été avant moi et l'ont très bien fait. À la limite, être féministe maintenant paraît presque démodé. Mais je tiens à confirmer la valeur intrinsèque de la condition féminine. J'en profite pour faire remarquer que, précisément, le 8 mars est la journée internationale de la femme. Les hommes et les femmes sont différents, mais vive la différence. Comme s'exclamait un vieux lord anglais et le répétait Sacha Guitry. Ce dernier affirmait qu'il était admirateur de l'autre sexe dans tous les sens du terme et il poussait la complaisance jusqu'à chercher à décomplexer les femmes un peu fortes en précisant « Je sors avec les dames minces, mais je rentre avec les dames bien en chair. » Des fleurs pour nous toutes, chères amies auditrices.
Quelquefois si douce, quand la vie me touche, comme nous tous, alors si douce. Chaque blessure longtemps me dure, longtemps me dure. Femme, je vous aime. Quelquefois si drôle, sur un coin d'épaule, oh oui, si drôle, regard qui frôle. Quelquefois si seul, parfois, elle le vole. Oui, mais si seule.
Dans notre culture judéo-chrétienne, l'homme s'est basé sur le premier livre de la Bible, celui de la Genèse, pour décider que la femme lui était inférieure, parce que Dieu l'aurait créée à partir d'une côte d'Adam. Seulement, d'après une édition antique de la Bible, l'homme et la femme auraient été créés égaux, avec de la boue et le souffle de Dieu pour leur donner à chacun la même âme et la même intelligence. La toute première femme, appelée Lilith, se serait rebellée contre Adam, qui voulait la soumettre. Elle s'enfuit alors du paradis terrestre, s'allia avec Lucifer et devint la mère de tous les démons. Elle était imaginée comme une splendide créature à la longue chevelure rousse, au corps parfait à demi nu, couvert de fleurs troublantes et de bijoux. Elle serait immortelle et se délecterait de tous les plaisirs défendus. Son évocation a inspiré, entre autres, un poème délirant qui a valu à Baudelaire, son auteur, les foudres de l'Église. Ce poème s'intitule tout simplement « Lilith » et Monique, qui adore Baudelaire, tient à le lire pour les amateurs de littérature exquise.
Où sors-tu de l'abîme, ô beauté ? Ton regard infernal et divin verse confusément le bienfait et le crime, et l'on peut pour cela te comparer au vin. Tu contiens dans ton œil le couchant et l'aurore. Tu répands des parfums comme un soir orageux. Tes baisers sont un filtre et ta bouche une amphore qui font le héros lâche et l'enfant courageux. Sors-tu du gouffre noir ou descends-tu des astres? Le destin charmé suit tes jupons comme un chien. Tu sèmes au hasard la joie et les désastres. Et tu gouvernes tout et ne réponds de rien. Tu marches sur des morts, ô beauté, dont tu te moques. De tes bijoux, l'horreur n'est pas le moins charmant, et le meurtre parmi tes plus chères breloques. Sur ton ventre orgueilleux, danse amoureusement. L'éphémère ébloui vole vers toi, ô chandelle, crépite, flambe et dit, bénissons ce flambeau. L'amoureux pantelant, incliné sur sa belle, a l'air d'un moribond caressant son tombeau. Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu'importe, ô beauté, monstre énorme, effrayant, ingénu. Si ton œil, ton sourire, ton pied m'ouvrent la porte d'un infini que j'aime, et n'est jamais connu. De Satan ou de Dieu, qu'importe, ange ou sirène, qu'importe, si tu rends, fée aux yeux de velours, rythme, parfum, lueur, ô mon unique reine, l'univers moins hideux et les instants moins lourds. Après que Lilith se soit enfuie du paradis terrestre, Adam, qui ne voulait pas rester seul, réclama à Dieu une compagne soumise. Le Créateur la lui aurait concédée en la personne d'Ève, fabriquée à partir de la fameuse côte. On admet maintenant que la Bible n'est pas une transcription exacte des événements, mais une histoire bien racontée, à la portée de civilisations rudimentaires, surtout en ce qui concerne la création du monde. Donc, dans le cas de la supériorité masculine, on part d'un principe inventé pour arriver à une conclusion des plus fausses. Ma déduction est logique et je suis persuadée que vous, messieurs, vous l'acceptez sans autre. Merci. Cette idée très subjective de l'infériorité de la femme a été reprise par les religions, toutes machistes. Dans le catholicisme, saint Augustin, le premier docteur de l'Église, a poussé le sarcasme jusqu'à proclamer ex cathedra que nous les dames, nous n'avions point d'âme. Il n'a pas hésité à nous rabaisser au niveau d'animaux reproducteurs. Quand je l'ai appris, mon indignation n'a duré que 2 minutes. ma logique a vite repris le dessus et j'ai tiré une conclusion satisfaisante à souhait dont je vous fais part. Si je n'ai pas d'âme, je ne peux pas faire de péché. Donc, aucune interdiction du décalogue ne me concerne, à l'exception, bien sûr, de faire du mal au prochain. Malheureusement, plus tard, d'autres docteurs de l'Église ont décidé que oui, nous avions une âme, d'où l'obligation de nous confesser pour avouer nos péchés sous la menace de l'enfer éternel. C'est un affreux chantage que les protestants ont aboli immédiatement. Toujours selon la Genèse, Ève serait perfide, vu sa complicité avec le serpent pour obliger Adam à manger la pomme défendue, soi-disant de l'arbre du bien et du mal. C'est de nouveau une application machiste. L'homme a préféré traiter la femme de sournoise plutôt que de reconnaître sa fine intelligence et sa capacité de discernement. Je sais bien que les comparaisons sont odieuses, mais en Espagne, précisément, on trouve une illustration facile de mon énoncé. Torer un taureau bravo est dangereux, certes, mais les plus encore, vouloir torer une femelle de la même race farouche. Après deux passes du toréador, la femelle a déjà compris que l'homme n'est pas derrière la cape. Et la troisième fois, elle encorne directement dans la bonne direction, alors que le mâle continue de s'attaquer au chiffon, ce qui lui vaudra la mort par estocade. Le malheureux, il n'a rien compris à rien.
Les arènes gonflées d'une foule en délire regorgent de couleurs et d'âpre envie de sang. Il y a des soupirs et des éclats de rire et des épées pointues comme des cris d'enfant. On y vend des serments, des anges et des âmes, des cacahuètes, des jeux de fruits et des drapeaux, des chapeaux de papier dont se parlent les dames. On y vend de la mort noire comme un taureau.
Au cours de l'histoire européenne et jusqu'à la fin du XIXe siècle, début du XXe, quelques femmes seulement ont osé revendiquer leur égalité de droit avec le sexe masculin. Mais c'était toutes des femmes bien situées de par leur naissance, les suffragettes en Angleterre, qui se manifestèrent pour le droit de vote des femmes et se recrutaient dans la noblesse ou la haute bourgeoisie. Les femmes du peuple n'en avaient ni les moyens ni la formation et elles acceptaient sans broncher leur statut d'infériorité à tous les niveaux. Même Jeanne d'Arc, qui prit le commandement d'une armée pour bouter l'Anglais hors de France, n'était pas une simple bergère comme on nous l'a fait croire. D'après de récentes investigations historiques, elle était en réalité la demi-sœur de Charles VII, le petit roi de Bourges qu'elle voulait remettre sur le trône de France. Dans l'Antiquité, on peut citer Cléopâtre, reine d'Égypte, célèbre pour avoir séduit les consuls César et Antoine, ce qui lui permit de sauver temporairement son pays de l'invasion romaine. Mais Antoine ayant été vaincu par Octave, Cléopâtre s'empoisonna ou, selon la légende, se fit mordre par un serpent à spic. Si le nez de Cléopâtre eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé. C'est une allusion à la vanité des choses humaines faite par Pascal dans Les Pensées. Bien plus tard, au XVIIIe siècle, Catherine la Grande n'hésita pas à faire tuer son mari, le tsar Pierre le Grand, qu'elle jugeait peu apte à gouverner l'immense empire russe. Elle dirigea elle-même le pays avec autorité, tout en s'intéressant aux philosophes français de l'époque, tels que Diderot, Voltaire, avec qui elle correspondait. De Catherine la Grande, on parle de despote éclairé.
Thank you.
Au XVIIIe siècle, la romancière française Amandine Aurore, baronne du Devant, était mariée à Jules Sandeau, qu'elle n'acceptait pas de son époux, signe ses écrits de son vrai nom. C'est pourquoi elle prit un pseudonyme masculin, Georges Sand, plus politiquement correct à l'époque. Elle avait un salon pour artistes à Paris, où elle rencontra et fut la muse de Musset, Delacroix et Chopin, s'il vous plaît. C'est vraiment une femme à envier pour avoir été aimée et être la muse de trois génies, un poète, un peintre et un musicien. En 1830, Georges Sand vint avec ses deux enfants et Chopin à Majorque, où elle scandalisait la population car elle portait des pantalons et fumait le cigare. Une femme libérée.
Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Au fond de son lit, un macho s'endort, qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore. Mais elle s'en fout, elle s'éclate quand même, et lui ronronne des tonnes de je t'aime. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber.
Fin du 19e siècle et début du 20e, prédomine la figure de Marie Curie, qui découvrit le radium avec son mari Pierre Curie, homme intelligent qui admit la valeur de son épouse. Madame Curie reçut le Nobel de chimie et le Nobel de physique. De plus, elle a déterminé l'emploi du radium en thérapeutique, ce qui lui valut être la première femme à entrer dans l'Académie de médecine. Dans la première moitié du XXe siècle, plusieurs romancières écrivirent des ouvrages réclamant non seulement l'égalité des droits civils de la femme, mais aussi sa liberté sexuelle. On se souvient tous de Marguerite Duras dans L'Amant, Simone de Beauvoir dans Mémoire d'une jeune fille rangée, ou bien Françoise Sagan dans Bonjour Tristesse. Nous allons, si vous le voulez bien, illustrer ces propos avec Juliette Gréco.
T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma jolie môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, jolie môme. T'as la rimelle qui fout le camp, c'est le dégel des amants, jolie môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, jolie môme. T'es qu'une fleur de printemps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, jolie môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vampe qu'on éteint comme une lampe au matin, jolie môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, jolie môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, jolie môme. Ta barrière de froufrou à faut se la ferme, c'est doux, jolie môme. Ta violette et le violon qu'on violente, et c'est bon, jolie môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, jolie môme.